Dans la jasette numéro 27, je vais te parler du UFC 249, d'un documentaire mettant en vedette Jerry Lynn, la grande scène, réalisé par Yann Theriault, et la bonne histoire est à propos de mon chum Ron Nathaniel. Et ça commence maintenant! Bienvenue, gang, dans cette jasette numéro 27. Commencez ça avec un documentaire vraiment tendu de Yann Theriault qui s'intitule La Grande Scène, qui mettait en vedette l'humoriste indépendant Jerry Lynn. C'était le troisième d'une série. Et là, Yann nous dit que c'est le dernier sur Jerry Lynn pour très longtemps. Ben, c'est normal, je pense qu'à un moment donné, il a fait le tour. Souvenez-vous, il avait fait un excellent documentaire très touchant sur Daniel Grenier, ancien membre des Chicken Swell, un documentaire que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Il en avait fait un aussi sur Étienne Daneau. Quel bonhomme, Étienne Daneau! Là encore, très touchant. Étienne avait été vraiment généreux dans tout ce qu'il avait dit. Puis moi, j'avais trouvé ça bien, bien intéressant. Pour revenir sur le documentaire de Jerry Lynn, il y a une partie là-dedans que c'est comme un road movie. Ils ont fait ça en voiture. Après ça, on le voit préparer sa salle qui loue le Club Soda. On peut le dire. Le Club Soda, c'est mythique à Montréal. C'est une grosse salle. Lui, il le loue par lui-même. Il faut savoir que Jerry Lynn n'a pas de gérant. Il fait tout seul. C'est lui qui place les chaises. Il a sa gagne avec lui pour l'aider, mais c'est un self-made man, Jerry. Puis pour moi, c'est beaucoup... moi, ça me parle évidemment en tant que barbu de ville, puis ce que j'essaie de faire avec mes choses. Ça me parle beaucoup dans le sens que c'est un peu ça que je fais aussi, tu sais... Puis Jer, ses choses vont très bien. Il y a un Patreon qui roule dans un train d'enfer présentement. Son podcast, le WhatsApp podcast, va très bien. Puis là, pendant la pandémie, il fait Jer et ses potes. C'est une autre belle série de podcasts. Il y a sa merch aussi. Il vend ses t-shirts. Donc, c'est un gars vraiment inspirant. Et puis, Yann le suit au cours de ça. Puis, dans le dernier, la grande scène, Jer est très, très, très généreux de son temps, puis très généreux de ce qu'il peut dire là-dedans. Puis moi, j'ai bien apprécié. J'aimais le bonhomme à la base, là, c'est clair. On parle pas d'un grand intellectuel, là. C'est pas de ça qu'on parle, là. C'est pas son genre d'humour qu'il fait non plus. Il fait de l'humour avec son cœur, c'est un émotif, c'est un sensible. Et puis moi, j'aime bien, bien ça, puis ça me parle beaucoup. Puis j'ai l'impression que ça parle plus au monde qu'à un intellectuel. En tout cas, mon humble avis. J'ai beaucoup apprécié la partie du documentaire qui se fait en auto. C'est bien intéressant. Le son était bon aussi. Belles images, comme toujours, de Yann Theriault. Moi, je sens beaucoup dans ses films... peut-être que Yann pourra dire le contraire, là, c'est lui qui a fait le film. Je sens beaucoup son influence de Casey Neistat dans ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, Casey, c'est un YouTuber que moi j'apprécie énormément. Là. Donc on peut sentir l'influence de Casey dans ce que Yann fait. Puis c'est bien correct de même. Là. C'est juste que moi, en tout cas, étant un fan, je le vois. La musique aussi, je souligne la musique dans le documentaire. Toute la musique a été faite par Yann lui-même, ce qui est, à mon humble avis, extraordinaire, puis c'est ce qui devrait se faire, j'ai l'impression. je trouve que ça donne à ce documentaire-là une touche plus que personnelle. Là, je veux dire, c'est de A à Z. Yann a tout fait dans ce documentaire-là. Ça, c'est de main de maître, puis c'est une méchante job de bras, ça, là. Faut être conscient de ça. Je sais qu'il a été chercher des nouveaux commanditaires au début du documentaire. J'étais bien, bien content pour lui. C'est très mérité. Oui, en passant, c'est ça, il s'autoproduit, hein, donc... Puis il disait dans le wrap-up après show, là, sur YouTube, que finalement, il faisait pas de sous avec, mais qu'il en perdait pas, tu sais, il arrive even. Fait que ça, on est content aussi, là, c'est quand même... on fait pas juste ça pour les beaux yeux des fans, là. On fait ça aussi pour faire des sous, tu sais, au moins, il arrive even, tu sais. Mais pas loin le jour que Yann... moi, j'ai l'impression, en tout cas, que... J'aime beaucoup tout ce que Yann fait, en fait. J'aime beaucoup son Daily Buffer podcast. Il peint aussi des belles peintures du pop art. C'est vraiment beau. Mais mon humble avis, là, mon humble avis, je pense que où est-ce que Yann performe le mieux, je pense où est-ce que Yann est le meilleur, c'est dans la production de documentaires. J'ai l'impression que son talent là et son talent de créateur de contenu est utilisé à plein, tant au niveau de la caméra qu'au niveau des idées d'images et de musique et d'entrevues avec ses... ces sujets, j'ai l'impression que le documentaire, c'est sa tasse de thé, tu sais. Puis, bon, je m'en allais dire qu'il en fait pas assez, mais là, en même temps, c'est tellement de l'ouvrage, puis ça apporte peu au moulin, tu sais. Fait que je comprends qu'il y a d'autres choses autour de tout ça, là. Ceci étant dit, je demeure un gros fan du Daily Buffer podcast. Mais, je pense à regarder le dernier qu'il a fait avec Jerry Allen. Vraiment, il utilise tout son talent et c'était très beau à voir, très beau. C'était bon à écouter. Moi, ça a été à 1h32 ou 37, là, je me souviens plus, de pur bonheur. C'était-tu 1h37? Laisse-moi. Non. 1h35 et 32 secondes, ouais, c'est ça. J'aime ça avoir le temps réel, tu sais. Moi, ça a été 1h35 et 32 secondes de pur bonheur. Si tu es en manque de regarder des choses sur YouTube ou sur tes plateformes, je te conseille d'aller sur YouTube, tu tapes La Grande Scène, Jerry Allen, J-E-R-R, Allen, A-L-L-A-I-N, ou tape Yann Theriault, puis tu vas te retrouver dans ces vidéos. Donc, je te suggère fortement. C'est ma grosse suggestion de la semaine. Des fois, je te suggère des choses, puis je me dis, ça vaut-tu vraiment, tu sais, je pars de ma perception à moi, tu sais, il y a des choses que moi je trouve, que j'adore, mais je le sais que les gens vont trouver ça ordinaire, tu sais, je suis capable d'avoir ce recul-là, mais là, je te dis, là, ça, là, c'est à voir, tu vois un gars qui travaille là-dedans, Jerry Allen, puis c'est drôle, tu vois Yann Theriault à travers ça, puis tu vois l'amitié des deux gars, ça, c'est vraiment cool, parce que Yann, il a ouvert pour Jer pendant ses shows une ou deux fois. Il faisait un petit bit de 5 minutes d'humour. C'était intéressant de voir ça, l'amitié entre les deux gars. Ça, j'ai bien aimé ça. On parle d'amitié entre hommes, puis il a effleuré le sujet. C'était très, très intéressant. Puis comme je t'ai dit au préalable, Jer, il est super... il est super généreux, tu sais. Dans ce qu'il dit, il est vraiment ouvert. Puis ça fait que ce gars-là, c'est un personnage. C'est un personnage, Jerry aussi, tu sais. On ne va pas se le cacher. Il est attachant. Puis Yann, à travers son documentaire, nous aide pas là-dedans. Il le rend encore plus attachant. Tu sais, tu as le goût de... Avec Jerry Allen, tu as le goût de t'accoter d'un bar puis de prendre une bière avec puis de jaser simplement. Puis moi, c'est cet effet-là qui me donne, tu sais. Quand je l'écoute aussi à travers ces épisodes de podcast. Donc, je te suggère fortement le dernier documentaire de Yann Theriault qui s'intitule « La Grande Scène » qui met en vedette Jerry Allen. Écoute ça, puis donne-moi-en des nouvelles, ça m'intéresse. Samedi le 9 mai qui s'en vient, c'est-à-dire ben demain, gang. À 10h le soir, il va y avoir le premier événement sportif pendant la COVID. Le UFC 249, directement du Veteran Memorial Arena in Jacksonville. J'ai tellement hâte, gang. Bon, ben peut-être que vous ne le savez pas, mais là, vous allez l'apprendre. Le barbu de ville, avant d'être un amateur de baseball ou de hockey, c'est un amateur de MMA, Mixed Martial Art. J'adore ça. Je suis un fan fini. Puis ça me dit qu'il s'en vient au UFC 249. Il y a... excuse-moi. Il y a un événement qui s'en vient qui va être, tant qu'à moi, mémorable. Il y a plusieurs bons combats sur cette carte qui est quand même assez pleine. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, une belle carte de même. Mais l'événement final de la soirée est pour moi probablement qui va être probablement un grand classique du genre qui va qui met en finale pour la ceinture intérim des lightweight, parce que le champion peut pas se battre présentement, il est blessé, c'est Khabib Nurmagomedov. Mais en ligne Tony Ferguson, qui a déjà été champion intérim, qui a présentement au UFC 12 victoires d'affilée, je tiens à le préciser. Samedi, il s'en va pour une 13e. Et Justin Gaethje. Justin Gaethje, c'est un phénomène. C'est un ancien lutteur. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Puis les deux gars sont extrêmement bons debout. Ce qui rend le combat bien, bien intéressant, si tu veux mon avis. Qui rend le combat bien intéressant. Les gars sont spectaculaires. Tony Ferguson avec les coudes, ça n'a juste pas de bon sens, sa technique. Son cardio, ce gars-là, il a un cardio out of this world. C'est comme s'il serait un extraterrestre, là. Il y a du souffle tout le temps sur Saint-Round, ça n'a pas de bon sens. Ce combat-là est pour Saint-Round. Justin Gaethje, ce qui fait sa force à lui, c'est que il s'en fout complètement. Il vient dans le ring, il n'a pas peur de perdre. Il est là pour gagner. Il a une puissance dans les points, ce gars-là, rarement vu. Pourtant, j'en ai vu des bons combattants, là. Puis Gaethje, il est au haut de la liste à ce niveau-là. Tony, il y a une défaite, je crois, mais ça fait bien, bien longtemps, là. Donc, c'est ça, là, il s'en va pour la 13e, comme je te disais. Donc, si on regarde l'affiche des deux gars, Tony Ferguson, c'est 26 victoires, 3 défaites. Gaethje, c'est 21-2, OK. Les deux, ils ont 5 pieds 11, ils se battent dans 155 livres. Le reach, la portée de Ferguson, c'est 76.5. Très grande portée. Puis celle de Gaethje, c'est 70. Gaethje a gagné 86% de ses combats par KO. Ferguson, 50% de ses combats. Et peut-être que j'ai omis de te le dire, mais Ferguson, c'est un expert jiu-jitsu aussi. Il a gagné 31% de ses combats par soumission. Donc, on peut voir que... Il y a bien des choses, il y a bien des couches dans ce combat-là. Les deux gars se sont pas en conférence de presse, puis tout ça, ils se sont entraînés chacun dans le petit coin comme ils font d'habitude. Ils se sont pas chicanés bien, bien les conférences de presse. Puis moi, je peux pas dire que j'étais un gros fan de ça, du parlage avant un combat. Là, ça fait un peu lutte professionnelle, tu sais. Puis, mais c'est correct aussi, je comprends que c'est pour vendre des billets, là. Puis j'ai rien, absolument rien contre ça. Mais non, absolument rien. En fait. J'ai vraiment rien contre ça. Attendez, excuse-moi. Bon, c'est ça. Gaethje est plus jeune, comme je te disais au préalable. Puis m'a faire une prédiction en même temps, là. Mais ça vaut ce que ça vaut, là. J'aime ça, je connais ça quand même, j'en ai vu passer, là. Mais ce combat-là est très dur à prédire. Moi, mon cœur, il est fendu en deux. J'adore Justin Gaethje. Il est cocky, il est jeune. Sans nouveau dans l'UFC, c'est le futur du Ultimate Fighting Championship. Tony, ça fait longtemps que je le vois se battre. C'est une histoire d'amour, là. Tu comprends-tu? C'est le respect du vétéran. C'est un vétéran, mais il est encore en forme, là. Faut pas se tromper avec ça. Puis la demi... Donc, ma prédiction avant d'aller à la demi-finale. Ouais. Je vais te prédire ces deux combats-là, la finale, la demi-finale, là, puis je vais passer un peu vite sur le reste, là. Ma prédiction. Ouais. J'ai pas pensé avant de partir le micro. Hey, c'est difficile en tabarnouche. Une chose est sûre. OK? Le gagnant du combat, ça va se faire par soumission au KO. Il n'y aura pas de décision dans ce combat-là, c'est clair. Ça va se terminer bien, bien vite ou ça va s'échelonner sur 4-5 rounds. Mais il n'y aura pas de décision. Les deux gars sont trop... c'est trop des guerriers pour ça. Bon, ben je vais y aller. Regarde, je vais y aller avec mon cœur. J'aime les deux gars, comme je te disais. Je vais y aller avec Tony Ferguson. Parce que à chaque fois que j'étais contre Tony, dans mes prédictions, j'ai payé le prix. Donc, moi, j'ai appris qu'on ne peut pas aller contre Tony Ferguson. Donc, moi, j'y vais avec El Cuchi. Tony Ferguson. Comment? Je ne sais pas, là. C'est, comme je t'ai dit, c'est très dur à prédire. Mais anyway, manque pas ça. Si tu as quelque chose à regarder ce soir-là, c'est l'UFC 249. Puis juste le combat final vaut le prix, là. C'est ça que je veux te dire. La demi-finale, c'est un combat pour le championnat Bantamweight, les 135 livres. Ça implique l'ancien lutteur olympique, champion olympique d'ailleurs, médaille d'or hein, à Beijing, The Messenger, Henry Cejudo, contre une légende, faut que je le dise, énigmatique, Dominic Cruz. Ben, c'est sûr que si tu connais un peu le UFC, tu connais Dominic Cruz. Bon, Cejudo, 15 victoires, 2 défaites. Dominic Cruz, 18 victoires, 1 défaite. C'est Judo plus petit à 5 pieds 4, Dominic Cruz 5 pieds 8. Donc, il y a un avantage là. L'affaire qui arrive de spécial avec ce combat-là, c'est que Dominic Cruz, il faut savoir qu'il s'est blessé souvent dans sa carrière. Plus souvent à son tour. Il a été des 3 ans manqués. Après ça, il est revenu. Il a repris un autre 2 ans sans se battre. Après un autre. Là, il revient après 3 ans. Le gars, il n'est pas chanceux. Il est fragile aux blessures. Mais il a 18 et 1. Là, il a 18 victoires, une défaite. Mais dans le ring, quand il se bat, il est presque imbattable. Là. Je te dirais que The Dominator, tu sais, Dominic Cruz, moi, la dernière fois qu'il s'est battu, là, c'est contre Garbrandt le 30 décembre 2016. Hey! Calcule ça comme tu veux, ça fait un bout, là. Puis là, tu t'en vas contre Henry Cejudo, lutteur olympique, très bon au niveau de la frappe debout aussi, imbattable pour mettre au sol, là, je veux dire le ground and pound, c'est son pain et son beurre. C'est sûr que son côté soumission, c'est pas sa force, là, le jiu-jitsu. Dominic Cruz, c'est pas le gars, c'est un gars qui travaille fort, c'est un naturel, mais c'est pas le gars le plus sympathique au monde, moi, t'as le dire. En tout cas, moi, c'est l'impression qu'il me donne, puis ce que je peux entendre à travers les bribes que je peux lire, là, tu sais, à travers mes lectures. Mais reste que Dominic Cruz, c'est un des meilleurs de tous les temps. Il les a tous battus. Drop les noms là, dans sa catégorie, il les a tous clinchés. Est-ce que c'est un combat difficile à prédire? Oui, dans le sens que avec Cruz, c'est un Jack in the Box. Moi, j'ai l'impression que ce combat-là dépend de lui, dans le sens que si Dominic Cruz arrive à 100% dans sa tête et son corps à ce combat-là, il est quasiment imbattable. Là. Pour moi, il est dans le pound for pound, comme peut l'être John Jones, Georges Saint-Pierre. C'est ce genre de combattant-là, tu comprends? Mais par contre, ce soir-là, il affronte un gars beaucoup plus jeune que lui. The Messenger, Henry Cejudo. Regarde, moi, y aller avec ma prédiction. Ça va être le dernier combat de Dominic Cruz ce soir. Ah! Hey, je te dis ça, tabarnouche. Difficile. OK. Regarde. Je ferai pas cette erreur-là. Regarde. Mon cœur t'a dit c'est Judo, mais ma tête, Dominic Cruz. Donc, moi, y aller. Même si j'adore ses judo, j'aime son histoire, un immigrant. Quand il était aux Olympiques à Beijing, sa mère, elle pouvait pas y aller parce qu'elle avait pas les papiers d'immigrant, elle avait pas ses papiers d'immigrant aux États-Unis, t'as pas encore terminé. Il était tout seul là-bas. J'aime beaucoup l'histoire de ses judo. C'est un homme bon, c'est un homme qui est dans sa communauté, puis tout ça. Puis, tu sais, j'aurais le goût de te dire, mais c'est un combat, là. Fait que je vais y aller avec Dominic Cruz, mais j'espère que je vais me tromper. C'est ça ma prédiction. Peut-être ça va aller en décision aussi. Les gars sont capables d'aller en décision. C'est un 5 rounds, là, c'est long. Je vais y aller avec vainqueur Dominic Cruz. Probablement que ça va aller en décision. Ouais, ça sera pas un knockout ou une soumission. Ouais. Dominic Cruz par décision. Puis là, tu as le reste de la carte. Après ça, des combats. Excuse-moi. Après ça, tu as Francis Ngannou, combat de poids lourd contre Jairzinho Rozenstruik, qui est sixième au monde. Ngannou est deuxième. Ça devrait être intéressant. C'est toujours le fun des combats de poids lourd. Le featherweight bout entre le spectaculaire Jeremy Stephen, toujours bon au bout des points, septième au monde, contre Calvin Kattar, qui est neuvième. Un autre combat intéressant ici. Puis le premier combat de la soirée, qui ne sera pas dans les prélims, c'est un heavyweight bout entre Greg Hardy contre Jorgan De Castro. Combat qui m'intéresse moins, mais quand même, c'est des poids lourds, ça peut être spectaculaire. Ce qui va être le fun ce soir-là, surtout, c'est d'avoir du sport. Je pense que le monde est en manque de sport, puis tout le monde est bien content de ça. Puis il va y avoir du monde pour regarder cet événement-là. C'est le temps pour la UFC de shining. Dana White il a sorti une belle carte pour ça, là. Puis ça devrait être bien, bien intéressant. Je te souhaite un bon UFC. Si tu le regardes, ben donne-moi de tes commentaires après le gala. Tu veux éviter les épiceries, les files d'attente? Chef Maison, la solution. Au 438-872-9500. Je répète, au 438-872-9500. Appelle donc mon chum Roger. La bonne histoire de cette semaine, ça a rapport avec un vieux chum avec qui j'ai parlé cette semaine, Ron Nathaniel, un vieux chum de chez Standard, puis j'ai jasé aussi avec un autre vieux chum, Keith Allen Gulick, puis ben, je dis bonjour en même temps à Keith parce que je sais qu'il m'écoute. Donc ça m'a donné le goût de vous ramener une vieille histoire de baseball que j'avais écrite pour Ron justement avant son départ quand il a quitté Standard Product. Fait que ça s'intitule Thank You Mr. McDonald. En passant, Ron Nathaniel, le plus grand partisan des Indians de Cleveland que je connais, grand partisan de Bob Feller. Fait qu'on y va comme suit. Les Américains aiment le baseball comme on aime son père et sa mère. Le baseball est comme un membre de la famille. Un petit Américain apprend souvent à frapper puis à attraper des balles avant d'écrire. Pour les amoureux de l'histoire, le baseball est une mine d'or. Le baseball est une tradition qui remonte aussi loin qu'à Abraham Lincoln. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un petit Américain qui a appris le baseball avant l'arithmétique. Voici l'histoire de mon ancien collègue de travail, Ronald Ron Nathaniel. Le plus québécois des Américains que je connaisse. Quelque part au New Jersey en 1954. Un vieux monsieur et une vieille madame habitent à côté des parents de Ron. Leur rêve était de fonder une famille, mais comme la vie n'a pas de système de justice, ces vieilles personnes n'ont jamais eu d'enfants. Un jour que Ron est dans sa cour à jouer avec ses petits soldats verts en plastique avec les pieds toujours fondus, il voit un drôle de vieux monsieur qui a un chandail de baseball des Indians de Cleveland s'avancer vers lui. Ron, du haut de ses 4 ans, pensait que le monsieur était un joueur de baseball qui avait perdu son chemin. Mais en fait, c'est un concierge presque à la retraite. Il a invité le petit Ron à frapper des balles dans sa cour avec l'approbation de sa mère, bien sûr. Le vieux monsieur mit un bâton de plastique dans les mains de Ron, un waffle bat. Il l'a installé face à une plaque imaginaire. Lui, le vieux concierge, il a sorti de sa poche une balle de baseball en plastique. Il a commencé à la lancer à Ron qui fendait l'air à tous les coups. Pendant cette première pratique-là avec son voisin, Ron n'a pas frappé la balle une fois. 1 heure à soigner dans le vide. Ça épuise un petit monstre à batterie. Après leur deuxième séance de soignage dans le vide, Ron est parti chez eux en pleurant. Comme Ron a une tête dure, il est revenu le lendemain avec l'intention de frapper cette maudite balle-là l'autre bord de la clôture. Encore une fois, comme un mauvais film de série B, Ron est reparti chez eux avec le bâton sur son épaule puis le sentiment comme jamais il va la frapper, cette maudite balle-là. Le vieux bonhomme était du genre patient. Il a attendu toute sa vie après des enfants qu'il n'a jamais eu. Puis Ron était du genre têtu. Un mix parfait pour un petit gars qui n'a pas touché la balle pendant la moitié de l'été 1954. Pendant une belle journée du début du mois d'août, le genre de journée dont on se souvient toute sa vie, Ron est allé frapper des balles chez son vieux voisin. Frapper des balles, c'est-à-dire qu'il est allé fendre de l'air chez son voisin. Le miracle se produisit. Qui a dit que les miracles n'existaient pas, bande d'incultes? Ron s'est réinstallé proche du marbre, comme un million de fois auparavant. Il y avait un je ne sais quoi dans l'air de Jersey cet après-midi-là. Le vieux lançait la balle une autre fois, encore une fois, et le bâton du petit Ronald, Ron, Nathaniel, fit par magie contact avec la balle. Le genre de magie dont tu te souviens toute ta vie. Le genre de magie que tu racontes les yeux dans l'eau à ton collègue de travail un banal mercredi après-midi dans un entrepôt de Montréal. Le genre de magie qui donne des frissons 50 ans plus tard. C'est dans mon livre à moi. Plus fort que Houdini. Pour le reste de l'été, Ron s'est transformé en Slugger. Il est devenu un furieux partisan de Cleveland et de Bob Feller. Aujourd'hui encore, à 70 ans, chaque fois que Ron foule un terrain de balle pour jouer au softball, à balle donnée ou au baseball, quand il dépose un pied sur le terrain de balle pour jouer, il ferme les yeux, fait un signe de croix et remercie son bon vieux voisin du New Jersey en disant « Thank you, Mr. McDonald ».